Vous écoutez France Culture.
Une vie, une œuvre de l'été, merci de nous retrouver pour un troisième épisode de notre thématique musicale avec Richard Wagner, 1913-1883. Wagner fut le compositeur de tous les extrêmes. Sur le plan personnel, d'abord, la puissance de sa volonté paraissait sans limite, à tel point qu'il réussit à se faire construire à Bayreuth et grâce au soutien du jeune Louis II de Bavière, son propre palais des festivals. Artiste démiurge, il écrivait lui-même l'ensemble de ses livrets et décidait de pratiquement tout, extrême également dans ses idées et dans la fascination qu'il exercera plus tard sur le régime nazi. Aucun autre compositeur n'aura, au cours du XXe siècle, déclenché autant de haine et autant d'admiration. C'est depuis les coulisses de l'Opéra de Rouen que Christine Le Cerf nous propose d'approcher ce titan dans une émission réalisée par Jean-Claude Loiseau et diffusée une première fois le 6 février 2011.
On n'a pas l'impression, en entendant trois mesures de Wagner, qu'au bout, il y a quelque chose qui ne sera pas simplement un morceau de musique, mais un monde un peu à part et une volonté rendue perceptible par la musique. Eh bien alors, je crois effectivement, il vaut mieux s'arrêter tout de suite.
C'était un homme entêté, c'était un homme visionnaire et c'était un homme qui savait réaliser ses visions.
Si on peut avoir un rêve ici, c'est évidemment de jouer la ring une fois dans sa vie quand même. C'est le Graal un peu des musiciens quand même.
On ne peut pas aller à Wagner sans qu'il y ait un grand orchestre, de grandes forces, le rassemblement de grands moyens, comme si on se mettait soi-même au seuil de quelque chose d'important.
On a beau dire « Ah pas Wagner », eh bien Wagner est toujours debout et Wagner se porte admirablement bien. Car non seulement il a su créer un monde musical, mais il a su créer un monde d'idées. Et c'est en particulier pour cela que, personnellement, non seulement je lui conserve, mais je lui garde une profonde admiration.
Le son wagnérien correspond pour moi, n'est rien d'autre qu'une cumule des petits sons. Moi, je ne suis pas convaincu que Wagner, c'est quelque chose d'écrasant, germanique, titanesque, uniquement. Bien sûr, il y a une surdimension en tout. Mais c'est quand même dans la finesse et dans le détail qu'une vraie magie peut se transmettre.
La mort a quelque chose de moins amer, peut-être de moins probable, écrivait Proust en entendant Tristan. Le rêve le plus fou de Wagner aura sans doute été d'accorder à l'art le privilège de sauver l'homme de lui-même et le monde de sa chute. Après Auschwitz, une telle conception rédemptrice de la musique est devenue totalement impensable. Le fantôme d'Hitler hante encore les cérémonies de Bayreuth. L'œuvre de Wagner demeure cependant une aventure unique, pour ceux qui l'interprètent comme pour ceux qui l'écoutent. Car Wagner n'a pas seulement construit une œuvre monumentale, par sa durée et sa perfection formelle, c'est à l'intérieur de l'homme, dans la fosse de la mémoire universelle, là où fusionnent les images, les mots et les sons, qu'a lieu sa véritable révolution. Une rupture aussi radicale dans l'histoire de l'opéra ne pouvait se réaliser sans un défi que l'artiste s'est d'abord lancé à lui-même. Suivons donc cet éternel fuyard au chapeau noir dans ses errances de Dresde à Bayreuth en passant par Paris, Zurich et Rouen. Comme lui, laissons-nous guider par la protection bienveillante de ses muses, Wilhelmine, Mina, Mathilde ou Cosima, en n'oubliant jamais cette maxime, une vie, une ligne droite, un but.
Oswald Salaberger, c'est le fameux clic-clac du métal qu'on entend dans tous les opéras.
Oui,
Ça va être le fameux clic-clac qui est un peu universel, c'est-à-dire avec ces bruits, peu importe quelle langue vous parlez, mais on peut se trouver sur les quatre coins de ce monde, et ça c'est certain. Pour monter par exemple un opéra de Wagner, que ça demande beaucoup de moyens, hein, moyens d'investissement évidemment, financiers aussi, hein, mais aussi... en termes d'engagement et nombre des personnes, bien sûr.
Engagement physique.
Engagement physique et engagement mental, spirituel. Voilà, je pense que ça va jusqu'à la technique. Je pense à un technicien qui travaille autour d'un opéra de Wagner ne sera pas insensible par rapport à ce qui se passe. Il travaillera peut-être un peu différemment que pour un autre opéra. Je me suis toujours posé cette question en tant que chef d'orchestre. Qu'est-ce qu'il va penser la personne qui n'est pas peut-être concernée directement à faire sonner la musique ou faire chanter, mais est-ce que cette personne aussi est dedans? Et moi, je pense que oui. La réussite, c'est... opéra, c'est œuvre commune aussi. Hein, ce n'est pas qu'une forme technique ou une structure, c'est aussi œuvre commune.
On sait combien Wagner a accordé de prix au lieu de la représentation. Il a lui-même dessiné les plans de son propre théâtre. Il a enterré son orchestre dans une fosse. Est-ce que cette dimension acoustique est importante pour vous aussi ?
Bien sûr, puisque Wagner, il voulait que l'orchestre sera invisible. Donc il rêvait que la musique qui est invisible sera aussi... On ne peut pas voir d'où ça vient, mais on le sent que c'est joué live.
Ok.
Jean-François Candoni, on sait assez peu combien Wagner était un homme de théâtre. À 4 ans et demi, il était déjà sur les planches.
Oui, il montait sur les planches. Il venait d'une famille où tout le monde jouait du théâtre. Il était absolument fasciné par le théâtre. Et ce qui l'a amené vers la musique, en fait, c'est le théâtre. Parce qu'il avait une conception de la musique dans laquelle, en fait, la musique devait toujours être mise au service de ce qu'il appelait le drame, c'est-à-dire l'action théâtrale.
Alors, il y a quelqu'un qui joue un grand rôle dans cette passion pour le théâtre, c'est son beau-père Richard Geyer, qui va s'occuper de son éducation jusqu'à l'âge de 14 ans, qui était lui-même acteur.
Oui, qui était lui-même acteur, donc il était dans cette famille d'acteurs, il a vu son père jouer, il jouait souvent des rôles de méchants sur les scènes de théâtre, ça l'effrayait en même temps. Alors, il y a aussi cet intérêt de Wagner pour toute la littérature fantastique, cet effroi qu'il éprouvait en voyant certaines scènes de théâtre jouées par son père, qui le terrorisa complètement et qui l'ont sans doute fasciné, et c'est des choses qu'on va retrouver ensuite dans son théâtre. Il y a un autre personnage qui a joué un rôle important, c'était son oncle Adolf Wagner, qui était un érudit, qui connaissait très bien le théâtre et qui connaissait en particulier le théâtre italien. Il avait traduit en allemand les pièces de Carlo Gozzi, qui était un auteur qu'on connaît encore maintenant, qui était dans le milieu de la commedia dell'arte. Et cette dimension théâtrale apparaît justement chez Wagner dans sa fascination pour l'improvisation, pour le théâtre de Guignol, pour le théâtre de marionnettes. C'est quelque chose dont on ne parle pas souvent quand on évoque Wagner, parce qu'on a toujours l'impression que c'est des œuvres un petit peu monumentales, très solennelles, etc. Mais Wagner était complètement fasciné par le théâtre de marionnettes, ce qu'on appelle le Kasperl en Allemagne. Et il a essayé, en fait, dans son théâtre, de donner une dimension un petit peu improvisée. Alors évidemment, à l'opéra, l'improvisation, c'est pas possible. Donc il a développé une espèce de théorie sur l'improvisation fixée. Mais il y a cette idée chez Wagner, notamment dans les textes qu'il a écrits sur le théâtre, que finalement, l'opéra, c'est avant tout la réalisation sur scène par les acteurs. Et finalement, l'acteur est presque plus important pour lui que le compositeur ou l'auteur du livret.
André Tuboeuf, vous dites qu'à 17 ans, Richard Wagner rencontre sa sirène, ou alors celle qui va être la marraine de sa destinée artistique, la grande Schröder Devrient.
Il est certain qu'elle lui a fait un effet dramatique plus que musical, ça ne fait pas de doute. Mais enfin, comme Wagner était un homme d'oreille, un musicien, eh bien, l'impression dramatique qu'il a reçue, il l'a traduite dans la musique qui était la sienne et dans un type de vocalité dramatique et extatique, une façon de produire l'extase par le moyen de la voix, de produire le climax par des effets simplement vocaux. Ça a été tout de suite une caractéristique, enfin, de son génie. Ce que nous savons, c'est que c'était une voix à griffes, qui est tout simplement la voix élémentaire, une espèce de our-voix et de our-sensibilité, un our-appel dans la voix, quelque chose d'élémentaire et d'extra-individuel. Il est clair que c'est la tragédie grecque que c'est un théâtre aboli. C'est à la fois Shakespeare, l'enfer de Dante et les tragiques grecs qu'il mettait au-dessus de tout, qui ont parlé à Richard Wagner quand il avait ainsi 16 ou 17 ans à Dresde, dans la voix de Schröder de Vrindt. Mais au milieu du deuxième acte, après les filles fleurent, tout d'un coup, il y avait cela, simplement. En plein milieu de la scène, il y avait un buisson de roses en carton-pâte ou dans du bois découpé. Et puis, il y avait Vingasen en braie, bien entendu, comme était forcément un ténor wagnérien à l'époque. Et les filles fleurs indescriptibles, vous l'imaginez bien, qui étaient en train de le titiller et de lui tirer sa jupette. Et de derrière ce faux buisson, on a entendu « Parsifal, Weil, Mödel, Martin Mödel ». La voix rauque, une voix de gorge, une voix profonde, une voix d'enfer en vérité, mais c'était la rose d'enfer, comme nous le savons, c'était Kundry. Et Kundry, dans son appel magique, et un appel magique est telle qu'elle est, elle ne peut pas se déguiser, c'est une créature d'enfer, c'est une folle d'elle-même, c'est une dévorée vive. Mais il faut bien qu'elle ait en même temps en elle cette qualité maternelle, cette sorte d'étrange tendresse protectrice qui va donner abri, qui va tout de suite donner consolation ou du moins caresse, souvenir de la caresse maternelle, qui fait que Parsifal reste là, transfixé, quelque chose l'a rappelé.
De toute façon, moi je pense que Wagner, dans son enfance, il a tout vécu, ce qu'il a développé après. Il n'a pas forcément inventé des choses où il a approfondi, évidemment, comme un adulte et un homme avec une spiritualité hors norme pouvait le développer, mais il restait enfant toujours, c'est-à-dire une fois marqué par une histoire, comme ces histoires et légendes médiévales. Apparemment, c'était à l'époque des livres pour enfants, hein, que les mamans lisaient pour endormir l'enfant. Donc maman Wagner a apparemment lu des histoires, des légendes de la table ronde de Arthur, avec dedans Lohengrin, Parsifal, Tristan, pour endormir le petit enfant Richard.
En somme, il avait des noms propres à sa disposition, il avait des vieux mythes sans âge, et il avait de belles images, l'or du Rhin, les oiseaux qui parlent, le dragon sur le feu, la Vierge derrière sa barrière de flamme, etc.
Régis Boyer, 1988.
Il avait un certain nombre de thèmes, et son idée profonde, l'idée fondamentale, c'est que les dieux ne représentent qu'un stade dans l'histoire de l'humanité. Après les dieux vient l'homme, et l'homme, c'est Siegfried. En sorte que son œuvre consiste à partir de l'origine des dieux, à montrer comment les dieux n'arrivent pas à s'assurer la suprématie sur le monde, donc à suivre leur déchéance progressive à l'aide d'un certain nombre de grands thèmes et de grands symboles, et à manifester que finalement le crépuscule des dieux est vraiment seulement le crépuscule des dieux, car après il reste l'homme.
Il est parti à l'origine de la chanson des Nibelungen, qui est un texte anonyme médiéval. Il a enrichi en fait l'action du Nibelungenlied par d'autres textes, notamment des textes mythologiques scandinaves. Il avait lu aussi la mythologie des frères Grimm, dans laquelle il s'inspire énormément pour la définition de ses personnages. Mais en même temps, il a repris des choses, même s'il ne le reconnaît pas, dans l'opéra contemporain. Notamment les grands opéras historiques de Meyerbeer, on en trouve encore des traces jusque dans le Crépuscule des dieux. Il y a ça, il y a la dimension philosophique qu'il a voulu intégré dans cette œuvre. Il y a toute une richesse littéraire qui est empruntée au théâtre grec, et donc il a en fait en quelque sorte superposé toutes ces œuvres qu'il a intégrées lui-même dans la tétralogie pour finalement donner une œuvre qui à la fin est une espèce d'œuvre gigantesque qui rassemble un petit peu la totalité de ce qu'il savait et de ce qu'il connaissait.
Julien Gracq dit aussi que la tétralogie ou l'œuvre wagnérien est comme le temple d'Angkor, travaillé par les lianes, etc. Il y a donc une sorte d'articulation entre nature et culture qui joue très fortement chez lui. Et puis évidemment, il y a un élémentaire très fort dans son œuvre, l'eau, le feu, la forêt, etc.
Timothée Picard.
Quelque chose aussi qui est travaillé au niveau de la composition musicale, la mélodie continue de Wagner, le chromatisme wagnérien, tous ces procédés ont été assimilés au flux et reflux des vagues, de l'eau, etc. Ce qui faisait d'ailleurs dire à Nietzsche que cette musique était beaucoup trop aquatique, quelque chose d'aquatique et de brumeux qui le rattachait au nord de l'Europe, dans laquelle éventuellement on se noie.
Il y a la forêt avec toutes ses tentations aussi.
Oui. Dans l'œuvre de Wagner, il y a des moments tout à fait importants qui se passent, se déroulent dans la forêt. Notamment, deux opéras sont des opéras de la forêt. Siegfried, d'une part, qui est tout un parcours initiatique finalement et formateur pour Siegfried à travers la forêt. Et Parsifal, qui est aussi toute une quête initiatique et orientée à travers la forêt. Donc une forêt bénéfique et maléfique, forêt dans laquelle on peut se perdre, dans laquelle aussi on peut se retrouver, forêt mue par des esprits ou des entités magiques. Parsifal se perd dans la forêt, puis finit par s'y retrouver. C'est évidemment une image de sa quête initiatique, et puis au prix d'une longue perte, qui est aussi des retrouvailles avec soi-même, il va finir par retrouver le Graal et rétablir le règne du Graal dans sa gloire. C'est cet imaginaire de la forêt, évidemment tout à fait capital dans la culture germanique. Ça s'articule à quelque chose qui est exalté bien en amont depuis les origines du romantisme, cette association entre l'homme allemand et la forêt. Et c'est quelque chose qui est déjà très présent dans le premier grand opéra romantique, le Freischütz de Weber. Et on le retrouvera encore bien plus tard. D'ailleurs, on lui donnera même des significations symboliques négatives. Canetti, par exemple, dans son ouvrage intitulé « Masse et puissance », où il articule rêverie élémentaire et pensée politique, dit que la forêt allemande, c'est quelque chose comme déjà une armée en marche.
En rétrospective, on peut dire qu'on trouve beaucoup de traits dépressifs chez lui.
Nietzsche Wagner.
Et dépression et agression se forment naturellement très souvent un mélange caractéristique.
Mm-hmm. Il y avait aussi ces passions extrêmes et contradictoires chez Richard Wagner, ce goût d'aller dans un sens et puis dans l'autre.
Non, je crois que ce n'est pas si simple que ça. Richard Wagner était quelqu'un dans lequel il faut s'imaginer, dormait une œuvre massive. Comment sortir ça? Comment faire comprendre le monde que c'est nécessaire qu'il sorte ses œuvres? Ce n'est pas la musique de chambre, ce sont des trucs gigantesques qui coûtent de l'argent pour pouvoir les entendre. Et tout ça à travers un caractère quand même physiquement petit, avec de la peau très fine, plein de maladies tout le temps. Si on imagine sa vie, toujours en route, toujours chassé par des dettes et par des problèmes. C'est incroyable ce qu'il a pu faire dans son propre lifetime. On a fait le calcul, si on voulait copier toutes ses œuvres, y compris les écritures, ça ne passe pas à une vie de 69 ans. Ça reste un mystère. Non, il faut voir Wagner comme un tel qui a eu cette mission artistique. Mais comment s'imposer? Comment le réaliser? C'est énorme comme pression. Mmh. Et ça, je trouve très impressionnant. Il faut le respecter pour sa force aussi.
Ça nous demande énormément d'engagement physique. Enfin, on ne peut pas commencer un opéra d'œuvre de Wagner sans avoir beaucoup de technique.
Jane Peters.
Beaucoup de son. C'est presque une épreuve sportive. Et puis après, on a devant nous donc le chef qui à la fois garde le pendule, qui maintient la balance de tout et qui a la vision qui va mettre tout en place. Mais sans cette endurance, sans un chef avec un capacité d'endurer 3-4 heures de gestion. Il gère tout, il gère physiquement l'orchestre, puis artistiquement tout. Sans ça, c'est impossible, et puis ça ne sera même pas un plaisir.
La difficulté de jouer Wagner, c'est...
Florent Audibert.
La longueur, bien sûr, sont des œuvres très importantes. C'est un peu, si on peut comparer au cinéma, ça serait les œuvres de Bergman ou d'Antonioni. C'est vraiment ce rapport-là, c'est une musique qu'il faut avoir envie d'écouter, je crois. Si le grand public arrive et qu'on est confronté tout de suite à Valkyrie, on va certainement trouver ça trop long, on ne va pas comprendre l'histoire. C'est vraiment une musique où il faut se plonger dedans, je crois. Et du point de vue de l'interprète, c'est un peu la même chose, en fait.
Oswald Salaberger.
Je me rappelle dans Tristan, quand vous arrivez au troisième acte, vous avez 3h30 de spectacle derrière vous. Et là, le début du troisième acte, c'est vraiment un paysage sonore, musical, émotionnel, d'une sombreté, d'une profondeur inouïe, qui pressent un peu ce qu'il va se passer, la mort de Tristan et Isolde, finalement, bon, il n'y a pas grand-chose, sinon, il y a des... Tristan et Isolde, vraiment, toujours rapproché qu'il n'y a pas d'action, c'est un peu vrai, il s'agit de d'autres choses. Donc, vous arrivez là, à ce moment, et avec une fatigue physique, et j'allais dire, la magie commence à prendre à partir de ce moment-là, la magie de la musique. Spécialement de Wagner. Oui.
Est-ce qu'il faut garder quelque chose de l'enfance pour diriger Wagner ?
Je pense que oui, puisque comment se mettre à diriger 5 heures comme un sportif de haut niveau, si on n'est pas un peu avec, pris par une folie enfantine, oui.
On peut toujours jouer avec l'œuvre et être ou se battre. Tristan, c'est un monument. Naturellement, dans ma jeunesse, j'ai beaucoup aimé Lohengrin, Tannhäuser. Ça m'intéresse beaucoup moins aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est les Rienzi, m'intéresse les œuvres de jeunesse pas canonisées à Bayreuth. C'est ça qui m'intéresse. Aussi, ce qui est joli, de voir certains thèmes du premières œuvres de Wagner jusqu'au dernier, l'idée de défense d'aimer, titre un des premières œuvres, défense d'aimer, en Parsifal, vous avez le même problème, là avec la ronde des chevaliers, l'idée de communauté de Graal. Alors il paraît qu'il y a des idées qui hantaient Wagner dès ses débuts jusqu'à la fin, c'est ça qui m'intéresse aussi.
Est-ce que vous diriez, Jean-François Candoni, qu'il y a chez Wagner une volonté d'apparaître comme écrivain ?
En fait, il se présentait comme poète, mais poète dans le sens où l'entendaient les romantiques. C'est-à-dire qu'en fait, il a une espèce de poésie qui est commune à toutes les formes d'art et qui peut s'incarner aussi bien dans la littérature, dans un texte écrit, que dans la musique, que dans la peinture. Et donc, c'est un petit peu ce qui est à la base aussi de sa théorie de l'œuvre d'art totale. Cette idée poétique qui est quelque chose d'un petit peu transcendant, doit s'incarner à travers des œuvres réelles, et elle peut s'incarner aussi bien dans la littérature que la musique.
Il y a des exemples très concrets de textes de Wagner qui ont été écrits avant la musique. Je pense à Rienzi, son premier opéra, mais même le Ring est imprimé avant d'être joué.
Oui, et il y avait toujours quand même cette idée, quand il écrivait ses œuvres, de la musique qu'il allait mettre sur ce texte. Et en fait, souvent, les textes sont déjà conçus de manière un petit peu musicale.
Mais il les soumettait comme un écrivain à l'approbation d'autres écrivains. Par exemple, Heinel a lu certains de ses livrets. Mm-hmm. Je crois même que Schopenhauer aussi.
Schopenhauer n'appréciait pas beaucoup la musique de Wagner parce que ça ne correspondait pas du tout à sa vision de la musique. Et c'est vrai que cette idée aussi de représenter les textes indépendamment du théâtre, c'était aussi avant tout parce qu'il voulait se faire connaître. Je pense que pour lui, c'est un moyen de propagande avec cette idée justement que les textes qu'il écrivait, c'était quelque chose d'entièrement nouveau par rapport à ce qui se faisait à cette époque. Notamment avec l'anneau du Nibelung, le fait de recourir à des mythes et de mettre en scène un mythe dans un texte d'opéra, c'était quelque chose qui, selon Wagner, était entièrement nouveau. Ce qui n'est pas tout à fait vrai parce qu'on s'était déjà beaucoup intéressé à cette œuvre avant lui.
Nicht. aus dem Wald trieb es mich fort, mich drängte zu Männern und Frauen.
Ce qui est nouveau chez Wagner quand même par rapport à Weber, c'est cette volonté de, en quelque sorte, ce qu'on pourrait dire, littérariser l'opéra. Alors il littérarise l'opéra, notamment à travers ce fameux système du leitmotiv dont on s'est souvent moqué, mais en fait qui est quelque chose d'essentiel pour le développement du langage musical au XIXe siècle.
Alors c'est quoi un leitmotiv ?
Un leitmotiv, c'est un motif musical qu'on associe à une idée, à une action scénique, à un personnage. Par exemple, au premier acte de La Valkyrie, vous avez le personnage de Siegmund qui raconte son enfance et qui avoue ne pas connaître son père. Il ne sait pas qui il est, il ne sait pas quelles sont ses origines. Et à ce moment-là, l'orchestre, qui a un petit peu la fonction du narrateur, fait retentir le motif de Wotan, le motif du Valhalla, pour être plus précis. Et donc, le spectateur comprend à ce moment-là, sans que le personnage sur scène en ait conscience, qui est le père de Siegmund. On devine donc que c'est Wotan. Et donc, le leitmotiv, ça permet justement de littérariser le texte, de littérariser la musique, en transformant finalement un langage musical qui n'a pas de sens en quelque chose de parfaitement sensé, dans lequel vous avez un jeu de mise en relation entre différentes périodes, entre différents éléments scéniques, qui fait que finalement, un sens va se construire petit à petit comme une espèce de grande cathédrale sonore qui va s'imposer dans le souvenir de l'auditeur et qui va construire un jeu de signification comme un texte littéraire. C'est pour ça, sans doute d'ailleurs, que Wagner a tellement fasciné les écrivains, parce qu'en fait, il joue sur la mémoire. Mmh. Et d'ailleurs, Thomas Mann disait que les plus grandes idées de Wagner étaient des idées de poète plus que des idées de musicien.
André Tuboeuf, Richard Wagner était hanté, littéralement habité par ce rêve insensé de la totalité.
Richard Wagner est l'homme qui s'est fait construire Bayreuth par les gens au monde qui le détestaient le plus. Ça ne s'est pas produit avant et ça ne s'est pas produit après. Et c'est un artiste créateur qui a fait ça. Richard Wagner, c'est une volonté créatrice. Une vie, une ligne droite, un but. Wagner a pris une ligne droite à travers des circuits insensés, des palinodies, des retours, des tromperies, des duperies, des mensonges infâmes, avec, là-dessous, un but et une ligne droite. Richard Wagner était un homme qui, à 50 ans, avait déjà ses maladies de peau, son hypersensibilité aux choses sonores et ses allergies, et c'est quelqu'un qui, à 50 ans, n'avait rien fait. Il avait fait le vaisseau fantôme, il avait fait Rienzi, il avait fait Lohengrin, il avait fait Tannhäuser, so what? Ça n'est simplement rien. Il avait en avant de lui le Ring, les maîtres chanteurs, Tristan, Parsifal, et tout cela encore n'est rien. Il avait Bayreuth, c'est-à-dire de son vivant, sur sa colline, un temple à lui, à son œuvre. Voilà la trajectoire, voilà l'unité profonde de cette vie et toutes les influences qui lui étaient bonnes, mettons les influences artistes comme la Schröder de Vrindt, n'est-ce pas, un accent de plus dans la palette vocale, vous voyez, ou les aides, Mathilde Wesendonck, certains Français qui l'ont aidé, le roi de Bavière même, bien entendu, et les bénissants, et les maudissants, et les trompants, comme il n'est pas permis. Et Cosima. Mon Dieu. Mais au bout de cela, un temple de son vivant, et les rois et les musiciens de l'Europe qui viennent l'entendre, comme s'il était d'une autre essence qu'eux. Eh bien, cette volonté créatrice, c'est unique.
Si Wagner n'avait pas construit ce théâtre, nous étions une famille en pleine harmonie. parce que ses œuvres auraient été jouées partout, comme les œuvres de Verdi, tout le monde. C'est uniquement ce bâtiment qui donne un centre de pouvoir. Quelqu'un doit être le chef, qui va l'être, qui sait le faire artistiquement, qui a le droit héréditaire de le faire, etc., etc. Qui sera exclu, qui sont les gagnants, qui va perdre. Il y a plein de destins et des histoires autour.
La volonté de puissance peut se manifester très facilement. Enfin, quand on a devant soi une telle masse, on peut très nettement... Je crois que c'est beaucoup plus difficile, si vous voulez, de retenir, justement, que de se laisser aller, enfin, de ce point de vue-là.
On a fait de Wagner le représentant par excellence de la totalité, et du coup, l'anti-wagnérisme est apparu comme un refus, un rejet, un solde, et puis un deuil de la totalité. Mais il me semble que les choses sont plus compliquées qu'elles n'en ont l'air.
Timothée Picard.
Ça tient aussi à la position de Nietzsche, qui a été, comme toujours chez Nietzsche, très ambivalente. Le premier Nietzsche s'enthousiasme pour la totalité wagnérienne. Il dit que cette totalité est régénératrice. Il compare les composantes au corps humain et au corps social qui, grâce à cette force totalisante, va se ressouder. Et puis, quand Nietzsche fait critique à l'encontre de Wagner, il dit non, en fait, ça n'était qu'un leurre. Finalement, Wagner ne réussit pas à mettre en œuvre cet idéal de la totalité. Bien au contraire, il illustre plutôt une tendance inverse, celle consistant, sous couvert de totalité, à aller plutôt vers la fragmentation, la dissémination. Il faut se débarrasser, à mon avis, de cette image biologique de la régénération d'un organisme qui était dissolu, ou au contraire de la fragmentation d'un organisme qui rentre en décadence, pour voir effectivement que Wagner illustre à la fois un idéal de totalité et un idéal non pas de la fragmentation mais du détail. C'est quelqu'un qui joue beaucoup sur l'attente, le silence, parfois c'en est même étonnant.
Wagner a composé, on le sait assez peu aussi, 5 chants pour voix de femme.
Écoutez, c'est vrai maintenant, probablement parce que les opéras de Wagner sont devenus tellement accessibles, bien entendu, que plus personne ne pense à ces leaders qui étaient en vérité la façon la plus commode qu'on avait d'accéder à lui autrefois par le concert, parce qu'on les jouait constamment, concert mais constamment. J'imagine que la Damnation de Faust et les Wesenlandlieder ont été pendant longtemps ce que Paris a donné le plus à ses concerts de l'après-midi, du dimanche après-midi. Mais c'est une autre influence dans la vie de Wagner, largement, c'est l'influence de Mathilde. C'est à travers l'influence de Mathilde, l'influence antithétique, enfin Mina qui va être répudiée, larguée, Mina larguée. C'est comme un souffle de liberté, comme si la poésie entrait dans sa vie à la place de la prose, n'est-ce pas ? Très important pour Wagner, plus le confort bourgeois. Et cette poétesse qui est une autre façon d'être une maman, c'est-à-dire qui donne à son grand homme de la crème et des morceaux de sucre, il faut bien le dire, un jardin et des confitures et des poésies. Et bon, les poèmes, qui sont des poèmes parfaitement quelconques, qui sont les poèmes les plus convenus du monde, ont été simplement le support idéal qui ont cristallisé exactement ce thème de Tristan que Wagner portait en lui, cette idée musicale qui est une idée simplement sonore, n'est-ce pas, qui sont les 4 notes du prélude de Tristan et la tonalité de Träume, incarne la nostalgie, l'aspiration, tout ce que Wagner contenait encore, on peut le dire, dans la cage de son cœur et dans son bout de jardin, en attendant qu'un petit roi lui ouvre, il faut bien le dire, beaucoup plus, et qu'il libère à ce moment-là sa propre création. Car quand il met en musique les Wesendonck-Lieder, bien entendu, le grand projet de la tétralogie est déjà là, le grand projet, le livret de Tristan prend forme, et les maîtres chanteurs font suivre, je veux dire, le Wagner dramaturge est déjà à l'œuvre, sa musique n'est pas encore entièrement composée, mais il sait très bien, lui, où il veut aller.
C'est très, très différent d'accompagner un chanteur wagnérien ou un air d'opéra dans Tosca, par exemple. Parce que, évidemment, ce n'est pas la même partition. Le chanteur fait partie de la partition, fait partie du monde sonore, en fait. Ce n'est pas du tout une voix au-dessus et un accompagnement avec l'orchestre. C'est vraiment complètement mélangé. Donc c'est vrai que parfois, l'orchestre va dépasser le chanteur. Évidemment, la plupart du temps, le chanteur va avoir le dessus, mais c'est un magma, en fait. Beaucoup plus que sur un opéra de Mozart ou un opéra italien où l'orchestre va ponctuer, va répondre au chanteur, c'est vraiment un monde sonore complètement différent, quoi. Et un mélange qui est beaucoup plus difficile à obtenir.
Si on ne fait plus du tout attention au drame, simplement qu'on fait attention à la musique, je pense que, si vous voulez, l'équilibre est complètement faussé.
Pierre Boulez, 1978.
Et en général, c'est ce qui se produit, c'est qu'on s'intéresse beaucoup plus à la musique, si vous voulez, qu'au drame. Et je trouve qu'à ce moment-là, le drame et la musique doivent être en contrepoint. Et si on se met à vraiment faire de l'emphase là-dessus, pour moi, c'est absolument insupportable. Et en plus de ça, on n'entend pas les mots. Parce que le texte est tellement important à entendre. On n'entend pas les mots, alors plus on donne cet orchestre, si vous voulez, avec une certaine puissance, plus les chanteurs sont obligés de gueuler leur texte. C'est ce qu'on appelle du reste ici « aboyer son texte ». On dit en allemand « aboyer son texte ». Plus ils aboient leur texte, moins c'est compréhensible et plus l'expression reste indifférenciée. Parce que si à force d'aboyer, vous n'avez plus aucune différenciation dans l'expression et à force d'aboyer, ça devient une espèce d'hystérie qui est constante et d'hystérie qui ne change pas, qui est toujours sur un même registre, ce qui fait que ça peut être très assommant. Enfin, si vous avez des tunnels d'aboiement comme ça, je trouve ça vraiment, alors autant aller dans un chenil.
Certains sont tout à fait rétifs au chant wagnérien, mais il semble tout de même que le chant wagnérien intensifie cette dimension de jouissance procurée par le chant à l'opéra. Une des premières relations très fortes, très connues sur le plan européen à l'égard de Wagner, c'est celle de Baudelaire qui dit « Je vous dois la plus grande jouissance que j'ai jamais éprouvée ». Il parle essentiellement de musique orchestrale, mais ce serait le cas a fortiori pour le chant. Et ce chant qui se déploie souvent sur des masses orchestrales assez puissantes crée quelque chose de fascinant, de Mallarmé disait de ruisselant. Et on a beaucoup exalté ou caricaturé les chanteurs wagnériens pour cette raison précisément, parce que la jouissance qu'ils procuraient à la fois fascinait et inquiétait. Il y avait quelque chose de possédant, d'hypnotisant dans ce type de vocalité qui éveillait à la fois tous les enthousiasmes et aussi un certain nombre de réticences.
Richard Wagner a vécu plusieurs périodes d'exil qui ont chacune à leur manière été paradoxalement assez fécondes et fructueuses, même si douloureuses.
Oui, elles ont été fécondes. Alors,
Jean-François Candoni.
Le problème qui se posait pour Wagner et qui se posait pour beaucoup de compositeurs à cette époque-là, c'est que l'Allemagne était un pays qui n'avait pas d'unité politique, qui était extrêmement éclaté. Il n'y avait pas de grande capitale en Allemagne. Berlin n'était pas du tout une grande capitale culturelle, pas plus que Munich. Et si un compositeur voulait se faire connaître, accéder à la célébrité et diffuser ses œuvres, il était obligé de s'exiler, et de s'exiler notamment à Paris, parce que Paris, c'était la capitale culturelle du XIXe siècle. Et donc, ça a été extrêmement productif pour lui, parce qu'en fait, c'était un défi à relever. Il voulait se faire connaître, il voulait montrer au monde de quoi il était capable, et pour lui, c'était à Paris qu'il était capable de faire ça. C'est pour ça qu'il a repris son opéra Tannhäuser, qu'il a considérablement modifié, parce qu'il voulait montrer qu'il était l'artiste de la modernité. Et d'ailleurs, c'est à Paris que Wagner va être connu par des gens comme Baudelaire notamment. Et le début de la réception de Wagner va se faire justement à la suite de ses séjours à Paris.
Tannhäuser, roman de l'étoile, chanté par le baryton Pérol du Conservatoire National de Paris.
Yannick Simon, est-ce qu'on peut dire qu'entre Wagner et la France, ce sont des relations d'amour et de haine ?
Un peu, ce sont en tout cas des relations très tumultueuses et qui vont se pacifier à Rouen en 1891. Mais auparavant, il y aura eu bien des étapes, la plus importante étant la création de Tannhäuser à l'Opéra de Paris en 1861, qui ne fera l'objet que de 3 représentations avant que Wagner n'interrompe et refuse d'aller plus loin. Ensuite, ce seront finalement les concerts populaires, les concerts symphoniques, et en particulier les concerts populaires de Jules Padeloup, qui vont diffuser la musique de Wagner, évidemment par extrait, mais c'est un rôle très important pour la reconnaissance de Wagner. Et finalement, après, on peut aussi évoquer l'échec de Lohengrin en 1887, mais finalement, c'est à Rouen que cette histoire va se pacifier, puisque Lohengrin sera monté en 1891, et avec succès, et c'est à partir de ce moment que Lohengrin va entamer un tour de France qui va le conduire dans différentes villes avant d'atteindre l'Opéra de Paris en septembre 1891.
Et pour moi, un grand souvenir ici à Rouen, commencer, c'est un...
Florent Audibert.
Tradition, le Wagner à Rouen, ça a été tradition depuis une bonne centaine d'années. Et c'est vrai que la première fois que j'ai joué ça, c'était la première fois d'ailleurs que je jouais du Wagner avec un orchestre, c'était après un concert Debussy. Hein, quand on sait le rapport qu'avait Wagner à Debussy, hein, en gros c'est « Je t'aime moi non plus », mais le Wagner français, c'est certainement Debussy. On avait joué la mer, et en bis de ce concert... on avait préparé l'ouverture de Tannhäuser, qu'on devait jouer quelque temps après entièrement en concert. Et c'est vrai que ce jour-là, Oswald s'était retourné et il avait dit au public « Pour vous ce soir, le miroir de Debussy, Wagner, de retour à Rouen. »
Alors, exil artistique, mais ensuite exil politique.
Exil politique. Alors, son exil politique, c'est plutôt en Suisse qu'il l'a fait, parce qu'après la révolution de 1849, il était recherché par la police. Il y avait un mandat d'arrêt qui était lancé contre lui. Donc, il s'est installé en Suisse. Et ça a été des années qui ont été extrêmement productives, pas tant du point de vue musical que du point de vue des textes théoriques. Parce que c'est le moment où il a senti le besoin de faire le point, de dire « Voilà maintenant ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Voilà maintenant, on va réformer l'opéra. » Donc 1848-49, c'est une espèce de date charnière dans toute l'histoire de l'Allemagne. Après 49, on n'écrira plus la musique de la même façon qu'on le faisait avant 1849. Et Wagner rédige tous ses grands essais qu'on appelle les essais de Zurich lorsqu'il est dans cet exil en Suisse. Il est extrêmement productif et c'est à travers ses essais qu'il va se faire connaître.
Il y a une troisième période d'exil qui est là plutôt liée à des histoires morales et amoureuses.
Alors, la troisième période d'exil, oui, c'est quand il s'est exilé à Tribschen, parce qu'en fait, il vivait à cette époque en Bavière, à Munich, où il avait été reconnu par Louis II, qui voulait faire de lui le grand musicien de la Bavière. Et puis, à ce moment-là, il a eu une relation adultère avec Cosima von Bülow, qui était une femme mariée. Ça lui a posé beaucoup de problèmes dans la presse munichoise, qui avait attaqué Wagner extrêmement violemment, d'une part à cause de l'influence qu'il avait sur le roi de Bavière, qui était quand même une influence qu'on jugeait négative, parce que ça impliquait des dépenses absolument phénoménales, et puis cette dimension morale qui n'était pas du tout acceptée dans la Bavière catholique, qui a fait qu'il a dû s'exiler une nouvelle fois en Suisse, où il a quand même vécu quelques années heureuses avec sa nouvelle compagne Cosima.
Ce qu'on raconte sur toi, est-il vrai ?
Et qu'est-ce qu'on raconte ?
Que tu n'as jamais connu de femme.
Je suis très catholique.
Et c'est une raison.
Il fallait que le roi vienne aussi à l'heure juste.
On raconte aussi que tu aimes être seul, que tu repousses tout le monde loin de toi, que tu sors à cheval toutes les nuits. On t'appelle l'amant du clair de lune.
Mais alors là, parlons de Louis II de Bavière. André Tubat, vous y êtes quand même allé fort, vous avez comparé ça à un mauvais vaudeville.
Pour être tout à fait franc, si on trouvait aujourd'hui un librettiste assez habile, un musicien assez proche de l'esprit d'Offenbach et qui puisse nous montrer d'autres dieux de l'Olympe qui sont déjà éloignés de nous, on ferait une opérette et un vaudeville scabreux, oui, de l'histoire. Wagner trompant tout le monde, Cosima trompant tout le monde, les deux, les yeux ouverts, trompant tout le monde, et le petit roi en extase, et le malheureux Bulot qui s'éloigne avec sa paire de cornes. C'est un vaudeville abject.
Toute association, évidemment, avec le système totalitaire comme
Oswald Salaberger,
le système nazi, est une chose ambiguë et difficile. Et je suis d'accord avec beaucoup de monde qui disent, après la Shoah, on ne peut plus jouer du Wagner. Je sais, aujourd'hui, si je dirige un morceau de Wagner, ça va encore blesser. Hein. Il y a des individus qui vont être blessés par le simple son, par le fait qu'on ose encore le jouer, puisque c'était une musique de guerre et de système totalitaire. Donc, essayons de respecter qu'il y a des gens, des individus, des sensibilités qui ne peuvent pas l'entendre.
Même si c'est vrai qu'on ne peut pas prouver par A plus B qu'il y a une dimension antisémite également dans ses opéras. Mais en tout cas, il a écrit des textes sur le sujet qui sont absolument abominables. Le fameux texte sur le judaïsme dans la musique. En 1850, c'est vraiment le moment en fait, où en fait, l'antisémitisme se transforme en racisme au 19e siècle en Allemagne. Et c'est vraiment le premier pas de cette voie qui va mener jusqu'à la Shoah ensuite. Même si Wagner, on ne peut pas du tout le rendre responsable de ce qui s'est passé, ça évidemment. Il est mort en 1883. L'antisémitisme à la fin du 19e siècle, ce n'était pas non plus ce que c'est devenu par la suite. Mais il ne s'agit pas non plus de tout effacer, de dire que Wagner n'est absolument pas responsable. Ce qui est difficile, c'est de trouver justement le véritable rôle qu'il a joué dans la montée de l'antisémitisme en Allemagne.
Est-ce que vous diriez de Richard Wagner qu'il était antisémite ?
Il était antisémite, sans doute. Antisémite.
Nicke Wagner.
Peut-être plus c'est l'anti-judaïsme encore dans le temps, je dirais. C'est pas l'antisémitisme exact des temps modernes. On peut se demander pourquoi il était tellement anti-juif. Et je crois que ça a ses racines aussi dans la concurrence, disons, avec Meyerbeer. Meyerbeer était le grand roi, grand opéra à Paris. Et advenait le petit Saxon qui voulait être aussi grand que Meyer. Ben, je simplifie un peu les choses. Il y a plein de sources. C'était, excusez-moi de le dire, c'était relativement normal, entre guillemets, qu'on était antisémite. Vous le trouverez dans tout le 19e siècle, chez les penseurs, chez les sociologues, partout.
Alors il y a cette histoire extraordinaire où donc, Wagner demande à Hermann Lévy, très grand chef d'orchestre qui devait diriger le Parsifal, d'origine juive, de se baptiser.
Oui, et qui lui avait été plus ou moins imposé par Louis II de Bavière, parce qu'à l'origine, il ne voulait pas vraiment de ce chef d'orchestre-là. Il y avait l'idée, selon Wagner, qu'en fait, on pourrait arriver à la rédemption des Juifs et qu'il fallait justement qu'ils se baptisent pour que le judaïsme, en quelque sorte, disparaisse. Donc l'idée de Wagner, ce n'était évidemment pas la solution finale de Hitler, ce n'était pas la Shoah, mais c'était l'idée que tous les Juifs se devaient de se convertir pour renoncer à tout ce qu'il leur reprochait.
La déjudaïsation.
Voilà, la déjudaïsation des Juifs, exactement.
La question principale, c'est est-ce que son antisémitisme viscéral, plutôt, est-ce que ça se montre dans les œuvres ? Bon, il y a des parties pour, il y a des parties contre. Il y a une qui disent que Mime, évidemment, c'est un nain criplé, c'est le Juif. Et à côté, la bête blonde, Siegfried, etc. Et dans Parsifal, qu'il y a plein d'antisémitisme, peut-être. Mais on est d'accord maintenant, entre les historiens, qu'on ne peut pas blâmer Wagner pour l'antisémitisme propagandiste, disons, dans ses œuvres. Mm. Point final. Mais qu'il était antisémite, lui, oui.
Il cherchait quand même une pureté. C'était pas un moyen s'exprimer politiquement, sa musique, ça c'est certain. C'est un moyen pour s'exprimer comme homme et humainement, et pour chercher quelque chose qui n'était pas encore du tout dit avant. Je trouve là, il a quand même suffisamment de sources où justement parce que la musique a subi telle chose, il ne faut pas se laisser la prendre, la vraie musique.
Peu de créateurs ont eu au même degré que Wagner le privilège, et le privilège terrible, de pouvoir eux-mêmes porter leurs personnages à la scène et les diriger en tant que chef d'orchestre, en tant que metteur en scène et en tant que chef de chant. C'était absolument ces créatures, n'est-ce pas ? Et c'était ces créatures et en même temps ils incarnaient des personnages qui étaient sortis de sa plume et de son imagination.
André Tuboeuf.
Il n'est pas possible qu'il n'y ait pas eu une sympathie extraordinaire de Wagner, homme de théâtre et metteur en scène de théâtre, dans la façon de les modeler, de les animer, qui fait qu'il les aime. Et il les aime parce qu'ils sont siens. Dès le vaisseau fantôme, le pourchassé, celui qui porte en lui la malédiction, celui qui souffre à la place des autres la malédiction qu'il portera à jamais, c'est déjà Wagner, l'éternel pourchassé. Bon, dans Lohengrin, il sera le personnage inverse, pourchassé et exclu, mais revenant du ciel, lui, le poète, pour faire régner l'espérance de l'amour et l'espérance de la lumière.
Mais l'identification suprême, c'est quand même le Tristan ?
Je ne sais pas. Tristan a été certainement l'identification suprême de sa vie au moment de Madame Ezen, donc. Mais enfin, Tristan n'est pas du tout un homme de pouvoir et pas du tout un homme de création. C'est donc à cet égard une exception dans l'univers de Wagner. On dirait Wotan à cause de la puissance, bien entendu. Mais on ne peut pas avoir fréquenté Wotan un peu longtemps, sans voir dans Wotan très vite, je veux dire, le désespoir de l'exercice du pouvoir, la tristesse d'avoir à l'exercer, ce que coûte le pouvoir. Donc, Wotan, sans représenter du tout la figure de Wagner triomphant, comporte en lui-même quelque chose d'infiniment plus profond et plus abouti dans l'itinéraire wagnérien. On peut imaginer que tout de même le Wagner de 70 ans qui va mourir est très heureux d'avoir acquis et conquis, et on voit comment, tout le pouvoir qu'il a acquis. Il sait très bien que sans le pouvoir qu'il a acquis et la façon dont il l'a acquis, il ne serait pas Wagner. Il est donc prêt à recommencer s'il le fallait. Mais il sait aussi ce que coûte le pouvoir. Il sait aussi qu'il va falloir tuer de ses propres mains le petit Siegmund. Il y a une tristesse de Wotan, il y a une tristesse du dieu, qui est une des choses les plus considérables qu'aucune dramaturgie humaine ait jamais produit, il faut bien le dire. Et je pense que là, il y a l'achèvement suprême, mais qui, bien entendu, n'est pas comme dans Tristan, un renoncement et une renonciation ou une abdication. Tristan abdique, Wotan n'abdique pas. Wotan boit jusqu'à la lie l'amertume de ce qu'il a lui-même produit, mais voilà, il le fait.
Et il va mourir en 1883 à Venise, en février 1883, et sa mort va être un des grands moments parce que son cercueil va être amené de manière triomphale jusqu'en Allemagne par un train. Et donc la mort de Wagner, c'est une sorte d'apothéose. Il est devenu ce qu'il voulait être, c'est-à-dire un espèce de grand héros national allemand, pour son bien et pour son malheur, qu'on voit ce qu'on va en faire après.
Moi, si je me représente la mort de Wagner, je me représente certes le long retour par voie d'eau, parce qu'il est revenu par les canaux autant que cela a été possible, mais pour moi, Venise, c'est Liszt inventant le Wagner du futur, inventant le Wagner réduit à sa quintessence dans les quelques élégies qui sont Richard Wagner, la lugubre gondole, voilà. C'est Liszt réinventant Wagner à partir de là. Et c'est Liszt et Wagner à leur étage du palais Vendramin, et Wagner lisant Shakespeare et Dante à son jeune beau-père, et Liszt jouant l'opus 111 et Bach à son gendre remuant, et Cosima voulant placer son grain de sel là-dedans, et les deux messieurs la renvoyant à l'étage d'en bas, chez les femmes. Voilà, ça, cette fin, c'est encore une fois de l'Offenbach peut-être, mais alors là, un Offenbach grandiose, enfin, un Offenbach sublimé. Et Cosima exclut de la communion.
Avec, à Paris, Nike Wagner, arrière-petite-fille de Richard Wagner, André Tuboeuf, critique musical, Timothée Picard, historien des idées, Jean-François Candoni, germaniste. À l'Opéra de Rouen, Oswald Salaberger, chef fondateur de l'orchestre, Florent Audibert, violoncelliste, Jean-Christophe Falala, flûtiste, Jen Peters, violoniste et Yannick Simon, musicologue. Remerciements à Franck Pack pour son thème à la trompette, aux violonistes Hélène Bordeaux et Étienne Hôtelier et au wagnérien Dominique Raoult. Archives INA, Annie Lozana. Prise de son, Yann Frécy et Pierre Quintard. Mixage, Manuel Couturier. Une émission de Christine Le Cerf et Jean-Claude Loiseau.
C'était Une vie, une œuvre de l'été avec une émission sur Richard Wagner par Christine Le Cerf et Jean-Claude Loiseau. Notre série Orientée Musique continue demain à la même heure avec un numéro, vous l'entendrez, consacré au chanteur français Charles Trenet. Très bonne fin d'après-midi sur France Culture et à demain.